voix nue. Ce soir encore, Delphine Jaffé rencontre Éric De Luca. Tout de suite, être au monde.
Éric De Luca, bonsoir. Dans ce dernier entretien, j'aimerais qu'on aborde une facette qui est indissociable de votre personnalité de lecteur et votre personnalité d'écrivain, qui est une sorte de quête du sacré, mais de manière laïque, hein, puisque vous nous avez dit que vous n'êtes pas croyant, à la fois à travers les Saintes Écritures et votre pratique des Saintes Écritures, et puis votre pratique de l'alpinisme, qui me semble être une quête également de l'ordre du sacré, quasiment. Vous nous avez dit que vous aviez commencé à apprendre l'hébreu quand vous étiez en Afrique. C'est ensuite quelque chose que vous avez approfondi de telle sorte que vous avez traduit des passages des Écritures. Donc qu'est-ce que vous cherchez dans cette traduction-là qui est comparable à nulle autre traduction ?
Je cherche la fidélité. Le maximum de fidélité à ce format originel du monothéisme qui a réussi à déraciner tout le polythéisme précédent. Il y avait un polythéisme éblouissant, c'était un floraison d'inventions théologiques et très démocratique parce qu'aucune divinité excluait les autres. Donc c'était la Méditerranée, c'était le lieu où le polythéisme avait rejoint le maximum de floraison. En Athènes, les Grecs, qui étaient spécialistes du polythéisme, avaient même un hôtel dédié aux dieux inconnus. Comme dire, si on a oublié quelqu'une de cette divinité, peut-être qu'elle se fâche, alors ils faisaient des sacrifices aux dieux inconnus. Donc, dans cette Méditerranée, va s'implanter cette nouveauté qui va arracher du sol les hôtels et les divinités du corps des hommes, de leur exercice de culte, qui va les faire tomber dans la mythologie. Qu'est-ce que c'était cette langue, cette histoire, qui avait cette force de déracinement et d'implantation? Et là, dans l'ancien hébreu. Alors, mon acte de traduction est un acte de fidélité la plus stricte, la plus étroite possible. Donc je calque en italien l'ancien hébreu, même dans la disposition de la phrase. Et je trouve dans les traductions des égarements qui ont été la source de beaucoup de déviations et de mauvaises applications de l'ancienne histoire. Par exemple, quand la divinité est traduite comme celle qui condamne le corps féminin à la souffrance dans l'accouchement. « Tu, femme, tu accoucheras avec la douleur. » Non, c'est pas vrai. C'est pas le mot. Le mot juste qui est employé par l'ancien hébreu, c'est le mot « fatigue »,« effort ». Et c'est une constatation que la divinité fait au sujet de ce qui vient de se produire, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et mal. Donc, après le fruit de la connaissance, il se retrouve nu. Aucune espèce animale, ça, d'être, c'est d'être nu. Donc, évidemment, ils se sont détachés de toutes les autres espèces animales avec cette démarche, cette désobéissance, cette initiative. Et alors la divinité va dire à la femme qu'elle n'aura plus la légèreté, l'agilité, la naturalité de l'accouchement qui ont les animaux. Elle est devenue une autre, a transformé son corps et sa biologie, et donc elle aura des difficultés et de l'effort pour l'accouchement. Et tout de suite après, il dit, en se adressant à l'homme, « Maudite sera la terre ». Évidemment, ne peut pas être une condamnation envers la terre qui n'a rien à voir avec cette affaire. Mais c'est encore une constatation. Ça veut dire que la divinité dit à la dame qu'il ne se contentera plus du fruit naturel que la terre produit, de ce que la terre offre naturellement aux êtres vivants. Mais la dame s'acharnera pour extraire du majeur profit. Elle exploitera la terre pour gagner majeur produit et majeure richesse. Donc la terre sera maudite par l'effort, la labeur, la sueur de la dame sur elle. Ce sont des constatations. Et tout de suite, il fait le geste le plus cordial et affectueux. Il prend des peaux et il revêtit la première nudité de cette couple. Donc c'est un geste très affectueux. Mais ça, ce n'est pas mon interprétation. C'est exactement ce qui se dit dans ce mot de l'ancien hébreu, « etzef », qui se trouve dans des autres passages de l'ancien hébreu, de l'Ancien Testament. On se trouve dans les proverbes et dans les psaumes. Et les traducteurs, dans des autres passages, traduisent exactement avec effort ou fatigue le mot « etzef ». Donc ils savent très bien comment se traduit ce mot. Mais il se permet d'introduire dans la bouche de la divinité une condamnation envers le corps féminin qui a déterminé la culpabilité, l'infériorité, la soumission du corps féminin. Parce que condamné même par la divinité, la coupable. Et donc cet abus face à l'originel, au format, me pousse à rendre des exemples de fidélité et de loyauté envers l'original. Tout en sachant que dans le calque, l'italien devient une langue de service. Ce n'est pas une langue d'arrivée dans sa pleine capacité de...
Un outil, c'est ça.
Devient un calque de l'ancien hébreu. Je fais des traductions comme ça, qui ne sont pas évidemment retraduites en français. Mais parfois, dans des passages, je me suis trouvé à citer mes traductions, des passages de certains vers de mes traductions, et j'ai obligé ma pauvre traductrice à employer ma traduction et pas les traductions officielles qui elle voulait mettre à la place, mais parce que c'était une monobstination à être attaché à ce format originel, de ce monothéisme décisif qui a déterminé notre civilisation religieuse, l'ancien hébreu.
Éric De Luca, on comprend bien ce qui vous anime dans cette traduction et dans la lecture des Écritures. C'est-à-dire c'est une lecture qui est totalement différente et autre de la lecture de littérature.
Oui, ce n'est pas la littérature. Parce que la littérature veut toujours flatter le lecteur, le charmer. Mais le faire entrer dans l'histoire, le faire prendre parti à l'intérieur de la scène. Par contre, là, il y a dans l'histoire sacrée, cette écriture ignore le lecteur. Il n'a aucune intention de s'adresser à un lecteur. C'est un verbal. Un verbal du rencontre entre une divinité et des écouteurs. Une divinité qui décide de se manifester avec la manifestation physique de la parole. Il dit. Il dit est le verbe le plus associé au nom de la divinité pendant tout l'Ancien Testament. C'est sa manifestation physique la plus insistante, la plus fréquente. Donc c'est un verbal. Rédigé, pas par des écrivains, pas par des rédacteurs qui ont mis par écrit une histoire orale.
Vous avez, Éric De Luca, également... explorer des blancs qui sont dans l'histoire de Marie, notamment. Vous avez écrit un texte qui s'intitule « Au nom de la mère » où vous replongez, vous réappropriez, vous explorez cette histoire-là. Qu'est-ce que vous cherchiez à faire avec ce texte ?
D'abord, dès que j'ai commencé à être connu comme quelqu'un qui lisait des histoires anciennes, de l'ancienne écriture, alors les journaux commençaient pendant les fêtes régulières, la Pâque, l'Épiphanie ou le Noël, à me demander des commentaires. Et j'ai commencé à écrire des commentaires dans ces occasions dans lesquelles je disais que le Noël, c'était pas la fête du fils, mais la fête de la mère. La fête où la mère s'affranchit, se libère de cet engagement énorme qu'elle a accueilli 9 mois avant. Et donc, de ce point de vue, du point de vue de cette petite fille qui accepte cet engagement scandaleux de mener à terme une grossesse pas causée par son fiancé, par son futur mari, donc cette histoire scandaleuse de flagrant adultère est une histoire qui finalement arrive à bon terme avec l'accouchement. Donc c'est la fête de la mère, Noël. De ce point de vue, j'ai commencé à écrire une version du côté Myriam de cette histoire, du côté de cette jeune fille. C'est une histoire complètement encore terrestre. Elle n'est pas montée sur elle. Terrestre, elle se trouve sur une terre brûlante. C'est une terre où l'occupation roumaine a trouvé le maximum d'opposition et d'insurrection. Parce que partout, les Roumains avaient réussi à mettre à côté des autres divinités leur propre divinité. Le polythéisme, dans ce point de vue, c'est très démocratique. Mais là, il se trouvait face au peuple qui avait accepté le dieu unique. Donc la possibilité de mettre Jovis, Jupiter, à côté ou en face du temple de Jérusalem, du temple de dieu unique, c'était une blessure et une brûlure insupportable. Et la résistance hébraïque à l'occupation romaine a été la première résistance due à une guerre de religion. Les Romains ne pouvaient pas comprendre. C'était la première guerre de religion qu'il avait trouvée dans leur histoire. Ils ne pouvaient pas la reconnaître, cette histoire. Pour eux, c'était une divinité comme les autres, qui n'avait aucun droit de prétendre une préférence. Et en plus, c'était nécessaire dans leur formule de domination qu'il y ait un culte de leur propre divinité dans le lieu. Si comme toutes les divinités des autres pays conquis étaient présentes en Rome. Ils avaient une ambassade théologique à Rome, ils avaient des hôtels et un culte des divinités des peuples occupés par l'Empire romain. Donc là, c'était une terre brûlante sous les pieds de ceux qui l'habitaient. Les Hébreux comme des Romains.
Vous écrivez dans « Pas ici, pas maintenant ». Si je suis restée catholique, c'est parce que cette religion parle d'un rapport entre mère et fils semblable à celui que j'ai connu avec toi durant toute mon enfance. C'est quelque chose que vous avez à l'esprit aussi quand vous explorez les écritures et quand vous traduisez ou quand vous écrivez ce texte au nom de la mère.
Oui, mais ce n'est pas exactement le moi-même qui me regarde. C'était une phrase qui se trouve bien dans le personnage de Pas ici, pas maintenant. Je ne suis pas resté catholique. Je suis resté non-croyant, quelqu'un qui ne peut pas s'adresser à la divinité, pas la tutoyer. Parce que le tout, c'est le pronom de la relation entre la divinité et le croyant. Je reste non-croyant, quelqu'un qui ne peut pas employer ce pronom de l'intimité, mais qui n'exclut pas la divinité de la vie des autres. Si quelqu'un est croyant, je suis convaincu qu'il a une intimité, une connaissance, une relation parmi les nombreuses que je n'ai pas. Donc je ne suis pas athée de ce point de vue. J'exclus de la divinité seulement de ma vie, pas de la vie des autres.
Vous écrivez dans le texte qui s'intitule « Sur les traces de Nivès » que dans l'Écriture sainte, le choc de l'invisible est explicite à chaque page quasiment. Et que ça rend l'écoute quasiment visionnaire, puisque vous avez parlé de cette voix qui ne s'adresse pas à un lecteur, mais que c'est une voix qui parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette intensité de la voix et de l'invisible dans les Écritures ?
Donc, par exemple, Myriam est enceinte avant le mariage et pas de son fiancé. Mais son fiancé, Yosef, qu'aucune écriture dit qu'il est vieux, donc nous pouvons l'imaginer jeune, ce Yosef croit à la version de sa grossesse. C'est une version invraisemblable de la grossesse, non ? Mais souvent, la vérité est invraisemblable. La vérité s'en fout de se présenter acceptable. Souvent, la vérité est scandaleuse et inacceptable. Et vient d'être refoulé par l'évidence des personnes qui la rejettent. Après, devient la normalité. Mais il y a tout un moment où la vérité est insupportable et invraisemblable. Et alors, Yosef croit à la version de cette grossesse. Pourquoi ? Parce qu'il la écoute par la voix de sa femme, de cette fille. Elle regarde dans les yeux et écoute la voix de cette fille qui lui raconte ce qui s'est produit dans son ventre. Et donc il ajoute sa foi et arrive à partager la foi de cette fille à travers l'écoute de son histoire. Les autres sont exclus de cette intimité, donc ils la rejettent, cette version. Et donc c'est comme ça, la voix a cette possibilité de faire avenir le passage de la vérité. Et la voix de la divinité, c'est l'arrivée, l'intrusion, l'explosion de la vérité dans l'ouïe de ceux qui l'écoutent, de ceux qui sont forcés à l'écouter, parce que personne ne se bouche les oreilles. Des prophètes essaient, après l'écoute, de dire « je ne suis pas fait pour ça ». Moïse est bégayé. Isaïe dit qu'il est impur de lèvres, donc il ne peut pas mettre les mots de la divinité dans sa bouche parce que personne n'a impureté. Jérémie dit qu'il est trop jeune pour amener ce message aux adultes, aux anciens. Jonas écoute et part dans la direction opposée. C'est rebelle comme ça. Mais au Candé, c'est boucher les oreilles. Il écoute. L'écoute est inévitable, mais c'est la force de planter la vérité.
Depuis quand est-ce que vous avez cette habitude de lire quelques passages
Je le fais le matin. Je le fais le matin quand je me lève. J'ai commencé à le faire quand j'étais dans le métier ouvrier. Et donc je prenais une heure en plus, une heure de sommeil en moins, pour me réveiller avant et inaugurer la journée avec cette lecture. Ça me permettait de faire quelque chose pour moi, de ne pas faire arracher toute la journée de l'effort du travail. Parce que le soir, j'étais incapable de lire ou de retenir quelque chose. Donc, j'ai fait cet exercice de l'éveil anticipé, qui me donnait la sensation d'avoir fait quelque chose pour moi, d'avoir sauvé une petite partie de mon temps pris et vendu. Donc, ça m'a donné envie de me lever tôt tous les jours de ma vie ouvrière. Donc j'ai une gratitude physique face à cette langue qui est pénétrée dans mes réveils et qui m'a sauvé mes réveils d'ouvrier pendant toutes ces années de vie ouvrière. Donc c'était un acte de soulagement pour moi, mais aussi en me laissant une gratitude vers cette fréquentation. Quand je me lève le matin, j'ai une tête complètement vide. Je viens d'un sommeil minéral. Je dors comme un pierre. Mais donc, j'ai des cavités dans ma tête le matin quand je me lève. Et donc, cette tête vide est habitée par les mots de l'ancien hébreu, qu'il circule dans ma tête vide et commence à allumer les cellules de ma tête et de mon réveil. Avec l'aide d'un bon café napolitain, bien entendu, mais cet mélange entre l'ancien hébreu et le café napolitain met en marche ma machine quotidienne.
Et c'est également le matin que vous écrivez?
Après ça, après la lecture. Si j'ai quelque chose à écrire, bien entendu, je ne suis pas l'employé de mon écriture. Je ne suis pas que tous les matins je dois écrire quelque chose, pas du tout. J'écris quand j'ai quelque chose à écrire. Et quand la page est déjà prête à être écrite. Je ne me trouve jamais devant la page blanche. Je n'ai jamais eu ce problème de la page blanche. La page est déjà prête pour être imprimée, pour être écrite par moi. Mais j'aurais eu du cauchemar si je la trouvais déjà écrite, la page. Je serais passé chez un exorciste si j'ai trouvé la page déjà écrite.
Éric De Luca, on sent bien que vous avez arraché à cette vie d'ouvrier qui a mis votre corps en gage, dans lequel vous avez engagé votre corps. Et l'alpinisme, l'escalade, c'est une autre manière d'engager votre corps, mais cette fois librement, par choix, sans que ce soit pour survivre.
Oui, c'est un acte de liberté physique, et c'est le mouvement qui mieux réussit et mieux s'adapte à mon corps. J'ai encore fait pour ça, pour grimper sur les rochers. Et ça me donne encore envie de maintenir mon squelette dans la bonne condition pour continuer à grimper. Activité physique heureuse, et où il y a des dangers, qui sont des dangers du temps libre, du bonheur, et ce ne sont pas les dangers maudits du travail ouvrier. J'ai pris des risques et des dangers dans le travail ouvrier, comme tous les ouvriers du monde. Et là, ce sont des dangers maudits. Des dangers qu'on doit prendre pour gagner le salaire. Et ce sont des dangers qui rongent le système nerveux de ceux qui doivent se soumettre au danger pour travailler. S'exposer au précipice de la montagne, c'est un danger heureux physique, pris pour bonheur. C'est opposé. Et rentre pas dans cette activité le mot courage. Le mot courage, c'est celui des ouvriers qui doivent travailler dans des conditions de danger.
À quel moment vous avez commencé à escalader régulièrement?
Il y a une trentaine d'années.
Et pourquoi
Parce que j'ai commencé à faire des vacances en montagne, qui était l'endroit le plus économique, pendant le mois d'août. Et je me suis trouvé en bas des montagnes et j'ai commencé à monter. D'abord, j'ai commencé à mettre les mains pour monter et j'ai compris que c'était un acte qui rendait heureux mon corps. J'étais heureux de le faire, donc j'ai continué. Depuis, je n'ai jamais interrompu l'activité, même aujourd'hui.
Il y a dans le fait d'atteindre un sommet, vous dites à la fois, c'est exaucer un désir et en même temps l'épuiser.
Si, 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 on c'est... désire de rejoindre ce sommet. Et le moment où on l'a rejoint, le désir est complètement épuisé. Il n'y a plus ce désir. On descend avec le rien dans la poche, sinon la satisfaction d'avoir exaucé un désir. Mais pour moi, monter sur un sommet, monter sur une paroi, c'est pas m'approcher à quelque intimité de là-haut. C'est le contraire, c'est la volonté de me détacher du lieu de départ et rejoindre le maximum de distance et en traversant une espèce de désert minéral. Une fois arrivé sur ce sommet, je suis arrivé nulle part. C'est pas comme arriver dans une île, on débarque sur une île, on débarque sur un sommet et il faut de suite descendre le plus vite possible. Sauf quand j'étais dans l'île d'Ischia, dans mon enfance, ou quand j'allais passer les nuits sur le sommet du Monte Pomeo, parce que oui, je voulais regarder là le lever du soleil, le jour après la nuit. Mais sauf là que c'était un petit sommet panoramique, les sommets que j'ai rejoints sont, oui, panoramiques, mais inhabitables. Il faut descendre tout vite.
Est-ce que c'est une manière de ressentir le moment présent? Je pense au personnage que vous mettez en scène dans Le poids du papillon, qui est un braconnier, et qui manque, qui rate le moment de la présence absolue où il est face au chamois. Il y a un instant suspendu. Est-ce que l'escalade, l'alpinisme, est-ce que cette sensation-là permet une sorte de ressentir une sorte d'intemporalité?
L'escalade, c'est un acte de bonheur qui se gaspille de l'énergie supplémentaire et qui risque de la gaspiller. C'est un acte inutile, comme tout l'alpinisme. Parce que il n'y a pas de raison de monter sur un sommet. Si on veut passer de l'autre côté, on passe à travers les passages les plus confortables possibles. Donc l'alpinisme, c'est un acte gratuit et inutile. Mais qui, à moi, m'a enseigné que les montagnes ne sont pas une séparation, ne sont pas un barrage. Sont plutôt le plus intense système de communication et de sentiers et de passages entre un versant et l'autre. L'idée qu'on puisse bloquer le Brennero, c'est la plus ridicule possible pour quelqu'un qui connaît les montagnes. Tu bloques un petit trait de passage dans la plaine, une autoroute ou une ligne ferroviaire, mais toutes les autres montagnes, les montagnes autour, sont des invitations à se rendre de l'autre côté, dans une autre manière, dans toutes les autres manières possibles. Donc pour nous, des alpinistes qui montent de deux versants opposés et rejoignent le même sommet, démontrent le ridicule des frontières. Ils les piétinent et démontrent le ridicule des frontières.
Justement, cette expérience très forte, puisqu'elle met aussi la vie en jeu quand vous êtes à plusieurs, et on le voit bien dans votre livre sur les traces de Nives. Est-ce que, avec les personnes avec qui vous escaladez, il y a un type de rencontre particulier?
Un proverbe russe dit que quand tu veux connaître ton copain, amène-le en montagne. Là, on ne peut pas tricher. La montagne est capable de faire sortir le mieux et le pire des personnes. Donc c'est un acte de dénouement, peut pas faire semblable d'être différent en montagne. En montagne, on est ce que tu es. Et tout le monde autour de toi peut reconnaître tes valeurs, tes qualités, tes insuffisances. Donc, aller en montagne, c'est avec les autres, c'est comme ça. Je vais souvent seul. Ça me plaît d'aller seul. Mais d'avoir aucune autour de moi, de n'être lié à aucune corde. Donc, ça me plaît de pendre tout simplement de moi-même, de ma tête, de mes pensées, de mon corps. Et quand on grimpe sur une paroi, on nage. La tête et les pieds sont à la même hauteur de la surface. La tête n'est plus le point panoramique du corps. La tête est au même niveau de la surface des pieds. Et donc la tête est moins importante. Ce sont plutôt les mains qui trouvent le chemin. C'est un peu aller à l'aveugle. Ce sont les mains qui essaient de trouver le passage suivant et inviter le corps à les suivre. Les mains deviennent les pieds. Et le corps, c'est comme disait Napoléon, l'intendance suivra.
Vous dites, Eric De Luca, que le plus important, c'est d'entretenir le sourire. Est-ce que ça fait partie des pratiques et des activités de votre vie qui vous permettent d'entretenir le sourire?
Ça, mon côté napolitain me permet de me moquer de moi-même et donc de entretenir le ridicule et le sourire.
Merci beaucoup, Eric De Luca, pour ces entretiens.
Grazie a voi.
Fin de cette rencontre de Delphine Jaffé avec Eric De Luca. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Arthur Gerbeau, réalisation Christine Digère, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.